Emmanuel Kant. La religion dans les limites de la raison. Quatrième partie. Deuxième section. Paragraphe 3. Du sacerdoce en tant que pouvoir consacré au faux culte. Du bon principe. Note. Ce terme de sacerdoce ne désignait que l'autorité propre à un père spirituel, mais il a pris la signification d'un blâme simplement parce qu'on y joint l'idée de ce despotisme spirituel qui peut se rencontrer dans toutes les formes d'église, si dépouillée de prétentions et si populaire qu'elle se donne. Aussi, qu'on n'aille pas se méprendre sur ma pensée. Je ne veux nullement établir de comparaison entre les différentes sectes, ni déprécier l'une au profit des autres en en rabaissant les usages ou les ordonnances. Toutes méritent un égal respect, en tant que leurs formes sont des essais par lesquels les pauvres mortels ont voulu se rendre sensibles le règne de Dieu sur la terre. Mais toutes sont également blâmables. Quand elles tiennent pour la chose même, la forme sous laquelle est représentée cette idée dans une église visible. Fin de la note, retour au texte. L'adoration d'êtres invisibles et puissants, arrachés à l'homme en détresse par la crainte naturelle, basée sur le sentiment de son impuissance, ne donna pas, de prime abord, naissance à une religion, mais bien à un culte servile de Dieu ou des dieux. Puis ce culte reçut une certaine forme officielle et légale qui en fit un culte de temple, mais il ne devint un culte d'église que lorsque, peu à peu, aux lois qui le réglaient, eut été reliée la culture morale des hommes. Sous ces deux formes, il reposait sur une croyance historique qu'on a fini par trouver provisoire et que l'on s'est mise à considérer comme la représentation symbolique d'une croyance de religion pure et comme le moyen de travailler à la développer. D'un chaman des Tongous à ce prélat d'Europe, à la fois et l'Église et l'État, ou, si au lieu des chefs et des pasteurs, nous considérons seulement les adeptes de ces croyances dans leur propre façon de se les figurer, du Vogoul, tout matériel, qui, le matin, met sur sa tête la patte d'une peau d'ours en faisant cette courte prière « Ne me tue pas », au puritain et à l'indépendant raffiné du Connecticut, la distance est grande sans doute pour ce qui est des façons extérieures, mais il n'est point de différence pour ce qui est du principe de la croyance. Car les uns et les autres appartiennent, sous ce rapport, à une seule et même classe. À la classe de ceux qui font consister le culte divin dans une chose qui ne rend pas en soi les hommes meilleurs. Dans la croyance à certains dogmes positifs ou bien dans la pratique de certaines observances arbitraires. Ceux-là seuls pour lesquels le culte ne peut consister que dans l'intention d'une bonne conduite se distinguent de tous les autres, parce qu'ils s'éloignent de ce principe pour en prendre un autre tout différent et de beaucoup plus élevé, qui est le principe en vertu duquel ils se regardent comme membres d'une église invisible comprenant tous les gens animés de bonnes intentions et qui seul, d'après sa nature essentielle, peut être la véritable église universelle. Le même but leur est commun à tous. Ils cherchent à tourner à leur avantage la puissance invisible qui préside au destin des hommes. Le seul point où ils se distinguent, c'est dans la façon de s'y prendre. S'ils se font de cette puissance l'idée d'un être intelligent et doué par suite de volonté, et d'une volonté qui doit décider de leur sort, tous leurs efforts ne peuvent consister que dans le choix de la manière par laquelle ils pourront, en tant qu'être soumis à la volonté de cet être, lui devenir agréable par leur conduite. Si la conception qui s'en font est celle d'un être moral, ils se persuadent aisément par leur propre raison que pour gagner sa complaisance, la condition doit être de bien se conduire moralement, et surtout d'avoir des intentions pures, comme principe subjectif de la conduite. Il se pourrait pourtant que cet être suprême voulût, peut-être, en outre, être encore servi d'une autre manière que la simple raison ne peut pas nous faire connaître. Je veux dire au moyen d'actions qui par elles-mêmes, à nos yeux, ne contiennent rien de moral, mais que nous accomplissons cependant, soit à titre d'actions commandées par Dieu même, soit comme des actions que nous nous imposons arbitrairement et dans le seul but de témoigner notre soumission envers lui, d'une manière générale. Ces deux groupes d'actions, quand ils constituent un ensemble d'occupations ordonnées systématiquement, nous paraissent en général établir un culte de Dieu. Or, si les deux sortes de cultes doivent se lier l'un à l'autre, il faudra, ou que tous les deux soient regardés comme atteignant immédiatement leur fin, ou que l'un des deux, en tant que moyen, se subordonne à l'autre, seul culte de Dieu, au vrai sens du mot, et seule manière de plaire à Dieu. Que le culte moral plaise directement à Dieu, c'est chose évidente par elle-même. Mais on ne pourrait pas admettre qu'il est la condition suprême de la complaisance de Dieu en l'homme, ce qui pourtant est déjà contenu dans le concept de la moralité. Si l'on avait la possibilité de considérer le culte servile comme étant par lui-même et sans aucune aide agréable à Dieu. Car nul ne saurait, en ce cas, à quel culte il serait préférable de recourir dans telle ou telle circonstance, pour juger par là quel est son devoir, ni comment ces deux cultes se complètent l'un l'autre. Par suite, des actions qui n'ont pas en soi de valeur morale ne devront être admises comme agréables à Dieu qu'à titre de moyen, servant au développement de ce qui, dans les actes, est immédiatement bon, contribuant à la moralité, c'est-à-dire qu'elles ne sont bonnes qu'en raison du culte moral de Dieu. Or, quand il emploie des actions qui par elles-mêmes n'ont rien d'agréable à Dieu, de moral, comme des moyens propres à lui procurer immédiatement les faveurs divines et à satisfaire ainsi ses désirs, l'homme a la folie de se croire en possession d'un art, de produire par des moyens tout à fait naturels un effet surnaturel. Ordinairement, à ces tentatives, on donne le nom de magie, auquel nous préférons substituer celui de fétichisme, nom qui est du reste connu. Pour éviter l'idée accessoire impliquée par ce mot magie d'un commerce avec le mauvais principe, attendu que ces tentatives peuvent, au contraire, fort bien être supposées entreprises par suite d'un malentendu dans une intention morale par ailleurs bonne. Mais un effet surnaturel. L'homme ne pourrait le produire qu'en supposant qu'il agit sur Dieu et qu'il s'en servit comme d'un moyen de provoquer dans le monde un effet auquel ses forces ne pourraient suffire, ni même son intelligence, quelque agréable au reste qu'elle pût être à Dieu. On voit que cette idée est déjà absurde par elle-même. Quant à l'homme, qui par-delà ce qui le fait immédiatement l'objet de la complaisance divine, l'intention active d'une bonne conduite, cherche encore, au moyen de certaines pratiques, à se rendre digne de voir suppléer à son impuissance par une assistance surnaturelle, et qui, dans cette vue, a recours à des observances qui n'ont pas de valeur morale immédiate, mais qui, cependant, servent de moyen au développement du sentiment moral et croit simplement se rendre par là susceptible d'atteindre l'objet de ses bons souhaits moraux. Il escompte sans doute qu'à sa naturelle impuissance viendra supplier quelque chose de surnaturel, mais un quelque chose que l'homme, au lieu de pouvoir provoquer par son action sur la volonté divine, peut uniquement recevoir, qu'il peut espérer, mais non point produire. Mais si des actions qui, par elles-mêmes, autant que nous pouvons le voir, ne contiennent rien de moral, rien qui soit agréable à Dieu, doivent toutefois, dans son opinion, lui servir de moyen, même de condition, pour qu'il attende immédiatement de Dieu l'accomplissement de ses vœux. Il faut qu'en ce cas, l'homme ait la folie de croire que, sans avoir ni le pouvoir physique, ni la capacité morale de recevoir un tel secours surnaturel, il peut néanmoins le déterminer par des actions naturelles, et que rien n'en soit apparente à la moralité, pour l'accomplissement desquelles n'est pas requise une intention agréable à Dieu, et telle, par suite, que l'homme le plus pervers peut les accomplir aussi bien que le meilleur des hommes. Formule d'invocation, profession d'une foi servile, observance ecclésiastique, et ainsi de suite. Et qu'il peut ainsi, peut-on dire, s'attirer par enchantement l'assistance de la divinité. Car entre des moyens uniquement physiques et une cause agissant moralement, il n'y a aucune relation possible selon une loi que puisse connaître la raison. Loi d'après laquelle une telle cause pourrait être représentée comme déterminable à produire certains effets par l'action de moyens physiques. Par suite, accorder la place d'honneur à l'observation de lois statutaires qui ont besoin d'une révélation, il a regardé comme nécessaire à la religion, non pas en vérité à titre de simple moyen utile à l'intention morale, mais bien en qualité de condition objective, qui nous rend agréable immédiatement à Dieu. Enfin, subordonner à cette croyance historique tous les efforts en vue d'une bonne conduite, alors que cette observation, ne pouvant plaire à Dieu que d'une manière conditionnelle, doit venir, au contraire, après la pratique morale, seule chose qui plaise absolument à Dieu. C'est transformer le culte en un simple fétichisme et rendre au Seigneur un faux culte, qui fait retourner en arrière l'évolution vers la vraie religion. Tellement il importe, pour lier entre elles deux bonnes choses, de voir dans quel ordre il faut les unir. Le vrai progrès consiste en cette distinction. Le culte de Dieu, grâce à elle, est désormais un culte libre et par suite un culte moral. Que si l'on s'en écarte, au lieu de la liberté des enfants de Dieu, on impose à l'homme, au contraire, le joug d'une loi positive, et comme on le met de la sorte dans l'obligation absolue de croire à des choses que nul ne peut connaître autrement qu'historiquement et qui sont, par suite, hors d'état d'être convaincantes pour tout le monde, c'est là, pour les hommes consciencieux, un joug bien plus lourd encore que ne saurait l'être jamais toute la pacotille des pieuses observances dont on le charge, parce qu'il suffit de les pratiquer pour être en parfait accord avec la communauté ecclésiastique établie, sans que l'on ait besoin, ni intérieurement ni extérieurement, de professer qu'on regarde ces observances comme une institution ayant Dieu pour auteur. Et c'est là proprement ce qui pèserait à la conscience. Note. Ouverture de guillemets. Le joug est doux et la charge est légère. Fermeture de guillemets. Quand le devoir qui oblige tout homme peut être regardé comme imposé à l'homme par lui-même et par sa propre raison, bon, c'est par suite un joug volontairement accepté. Tel est uniquement le joug des lois morales à titre de commandement divin, les seuls dont le fondateur de l'Église pure ait pu dire « Mes commandements ne sont pas lourds ». C'est-à-dire que ces préceptes ne sont onéreux à personne parce que tout homme aperçoit lui-même la nécessité de les suivre et que, par conséquent, rien ne les lui impose, tandis que des prescriptions qui nous sont données d'une manière despotique et que l'on nous impose en vue de notre perfectionnement sans toutefois que notre raison intervienne, et sans que nous puissions en voir l'utilité, sont en quelque sorte des vexations, des tracasseries, auxquelles ce n'est que par force que nous nous soumettons. Mais en soi, et considérés dans la pureté de leur source, les actes commandés par ces lois morales sont justement ceux qui paraissent les plus pénibles à l'homme, et c'est volontiers qu'à la place de ces actes, il accepterait les tracasseries pieuses les plus gênantes, s'il pouvait les mettre en ligne de compte en leur attribuant une égale valeur. Fin de la note retour au texte. Le sacerdoce est donc la constitution d'une église où règne un culte fétichiste, ce qui se rencontre toutes les fois qu'au lieu de principes moraux, ce sont des commandements statutaires, des règles de foi et des observances qui constituent la base et l'essence du culte. Et certes, il se trouve plusieurs formes d'églises, dont le fétichisme est si varié et si mécanique qu'il semble en écarter presque toute moralité, par suite aussi toute religion, pour s'installer à leur place humaine, et où l'on est ainsi bien près du paganisme. Mais le plus ou le moins n'ont rien à faire ici. La valeur d'une église, ou la nullité de son culte, tiennent à la nature du principe d'obligation auquel est donnée la première place. Quand ce principe impose l'humble soumission à des dogmes, et par suite un culte servile, au lieu du libre hommage qu'on doit rendre à la loi morale élevée au-dessus de tout, peu importe le petit nombre des observances imposées. Il suffit qu'elles soient données comme absolument nécessaires pour qu'on ait affaire à une croyance fétichiste, ayant pour résultat l'asservissement de la foule, à laquelle elle vole sa liberté morale, du fait qu'elle la met au service d'une église et non pas de la religion. Extérieurement, cette église, ou du moins sa hiérarchie, peut être monarchique, aristocratique ou démocratique, car cela n'en concerne que l'organisation. Mais sous toutes ses formes, la constitution en est et en demeure immuablement despotique. Sitôt que des statuts relatifs aux croyances sont mis au rang des lois constitutionnelles, la domination du clergé commence, et d'un clergé qui se regarde comme parfaitement en droit de se passer de la raison, et même, en fin de compte, de la connaissance de l'Écriture, parce que seul chargé de garder et d'interpréter la volonté du législateur invisible. Il a l'autorité exclusive de décider sur les prescriptions de la foi, et qu'ayant ce pouvoir, il n'a pas besoin de convaincre, mais uniquement d'ordonner. Or, comme hors du clergé, il ne reste que des laïcs, dont font partie les chefs des communautés politiques, en définitive, l'Église étend sur l'État sa domination, non en l'imposant par la force, mais en usant de l'influence qu'elle exerce sur les esprits, et aussi par ailleurs en faisant ressortir les prétendus avantages que peut offrir une obéissance inconditionnée à laquelle elle-même la pensée du peuple est habituée par la discipline ecclésiastique. Mais de cette manière, et sans qu'on le remarque, les sujets s'accoutument à agir hypocritement. Leur loyauté, leur fidélité sont minées. Ils en viennent à ne s'acquitter qu'en apparence de leur devoir civil, et l'on obtient ainsi, comme toutes les fois qu'on part de principes vicieux, justement le contraire de ce qu'on s'était proposé. Toutes ces conséquences sont les suites inévitables de la transposition, insignifiante à première vue, des principes de la croyance religieuse seule sanctifiante, puisque ce qu'on décidait, au fond, c'était la question de savoir auquel des deux principes on devait donner la première place en qualité de condition suprême, à laquelle est subordonné l'autre principe. Il est juste il est raisonnable d'admettre non seulement que les sages, selon la chair, les savants et les philosophes, se verront appelés à la connaissance des choses qui ont trait à leur vrai salut, car tout le genre humain doit être capable de cette foi, mais aussi que les hommes les plus fous au regard du monde, les ignorants eux-mêmes et les pauvres d'esprit, doivent pouvoir prétendre à cet enseignement et à cette conviction intérieure. Or, il semble, il est vrai, qu'une foi historique, surtout quand elle emploie, pour envelopper ses données, des concepts tout à fait anthropologiques et parfaitement en rapport avec la sensibilité, soit justement de cette espèce. Quoi de plus facile en effet que de saisir et de transmettre à d'autres une narration de ce genre toute simple et rendue sensible, ou que de répéter, à propos des mystères, des mots où l'on ne doit rattacher aucun sens. Combien facilement des récits de ce genre trouvent partout créance, surtout avec l'appât des grands avantages promis, et quelle profonde racine la croyance à la vérité de ces narrations pousse en tous les cœurs. Quand elle se base d'ailleurs sur des documents regardés depuis de longs siècles comme authentiques. Par là, certainement, une telle croyance se trouve en harmonie, même avec les plus ordinaires des facultés humaines. Mais, quoique la divulgation de ces événements et la croyance aux règles de conduite appuyées sur eux n'aient pas besoin d'avoir été données directement ou spécialement pour les savants ou les sages du monde, ces derniers, toutefois, n'en sont pas tenus à l'écart. Or, en ces matières, on rencontre des difficultés si nombreuses concernant, d'une part, la vérité des faits, et de l'autre, le sens à donner à leur exposé, que l'adoption d'une telle croyance en butte à tant d'objections, même soulevées très sincèrement, comme suprême condition de la foi sanctifiante, unique, autant qu'universelle, est la chose la plus absurde qu'on puisse concevoir. Or, il existe une connaissance pratique qui, bien que uniquement fondée sur la raison et sans avoir besoin d'aucune doctrine historique, est tellement à la portée de tous, même des hommes les plus simples, qu'on la croirait écrite littéralement dans nos cœurs. C'est une loi qu'il suffit de nommer pour que l'autorité en soit reconnue par tous sur le champ. Une loi qui comporte, pour la conscience de tous, une obligation inconditionnée, la loi de la moralité, pour tout dire. Au surplus, cette connaissance nous conduit d'elle-même à la croyance en Dieu, ou est la seule, tout au moins, qui puisse déterminer l'idée de Dieu comme législateur moral, nous conduisant par suite à une foi religieuse pure, non seulement compréhensible à tous, mais encore honorable au suprême degré. Elle y conduit du reste si naturellement que l'on peut en faire l'expérience. En interrogeant un homme quelconque qui n'en aura jamais été instruit, on pourra trouver qu'il possède cette foi entière et complète. Non seulement c'est donc un acte de prudence que de partir de cette connaissance et de mettre après elle la croyance historique qui se trouvera d'accord avec elle, mais encore c'est un devoir que de la présenter comme la condition suprême, nous permettant seul l'espoir de participer au salut, quelles que soient les promesses d'une foi historique, et cela de telle manière que seule l'interprétation que la foi religieuse pure nous donnera de la foi historique nous autorisera à lui attribuer une valeur d'obligation générale, puisque la doctrine qu'elle contient se trouve universellement valable, tandis que le croyant qui a la foi morale peut encore adopter la croyance historique, si elle lui paraît apte à vivifier ses sentiments de religion pure, auquel cas seulement, cette foi historique acquiert une valeur morale pure, attendu qu'elle est libre et qu'aucune menace ne vient nous l'arracher. Ce qui l'empêcherait toujours d'être sincère. Mais étant donné que le culte rendu à Dieu dans une église a surtout pour objet l'adoration morale pure de cet être divin, conformément aux lois prescrites à l'humanité tout entière, on peut se demander encore si c'est toujours la doctrine de la piété, ou bien la théorie pure de la vertu, qui doivent seules, et chacune séparément, constituer le contenu de l'exposition de la religion. Par la première dénomination, doctrine de la piété, le sens du mot religio, tel qu'on le comprend aujourd'hui, est peut-être mieux exprimé dans l'acceptation objective. La piété suppose deux déterminations de l'intention morale dans ses relations avec Dieu. Cette intention est crainte de Dieu, en tant qu'elle obéit au commandement du souverain maître par devoir imposé, ce qui revient à dire par respect pour la loi. Elle est amour de Dieu quand elle procède par libre choix et qu'elle exécute des ordres par complaisance en la loi, devoir filial. Dans les deux cas, par suite, elle contient, en plus de la moralité, le concept d'un être suprasensible doué des qualités requises pour réaliser le souverain bien que la moralité se propose d'atteindre, mais qui est au-dessus des facultés humaines. Or, si pour concevoir la nature d'un pareil être, nous sortons du rapport moral que son idée a avec nous, nous courons constamment le risque de nous en former un concept entaché d'anthropomorphisme, et par là souvent préjudiciable à nos principes de moralité. L'idée de cet être, par conséquent, ne peut pas subsister en soi dans la raison spéculative, mais son origine et toute sa force n'ont d'autre fondement que le rapport unissant cette idée à la détermination de nos devoirs qui repose sur elle-même. Pourtant, est-il rien de plus naturel que de voir exposer dans les catéchismes ou même dans la grande prédication la doctrine de la vertu avant celle de la piété, ou bien la piété avant la vertu, qu'on ne mentionne même pas? Les deux doctrines manifestement présentent une connexion nécessaire. Mais puisqu'elles sont différentes, cette connexion n'est possible que si l'une est conçue et présentée comme fin, l'autre comme simple moyen. Or, c'est la doctrine de la vertu qui subsiste par elle-même, même sans le concept de Dieu. La doctrine de la piété renferme l'idée d'un objet que nous nous représentons par rapport à notre moralité comme la cause qui supplée à notre impuissance relativement à la fin dernière morale. La doctrine de la piété ne peut donc pas constituer en soi le but final de l'aspiration morale. Elle n'est qu'un moyen destiné à fortifier ce qui en soi rend les hommes meilleurs, à savoir l'intention morale, du fait qu'à cette intention, qui est une aspiration vers le bien et même vers la sainteté, elle promet et elle garantit la possession de cette fin dernière que seule elle ne pourrait pas atteindre. L'idée de vertu, au contraire, est puisée dans l'âme de l'homme. Nous l'avons tout entière en nous, sous une forme enveloppée, sans doute. Mais sans avoir besoin, comme pour l'idée de religion, d'y arriver par raisonnement déductif. Dans la pureté d'une telle idée, dans la conscience éveillée en nous d'un pouvoir que sans elle, nous n'aurions jamais soupçonné et qui nous rend capables de surmonter en nous les plus grands obstacles, dans la dignité de l'humanité que doit respecter l'homme en sa propre personne et dans la destinée qu'il s'efforce de lui gagner, il y a quelque chose qui élève l'âme si haut et la conduit si bien vers la divinité qui n'est digne d'adoration qu'en raison de sa sainteté et de sa qualité de législatrice de la vertu, que, même quand il est très éloigné encore d'accorder à cette idée-là la force d'influer sur ses maximes, l'homme aime toutefois à s'en entretenir, parce qu'il se sent lui-même ennobli jusqu'à un certain point, par cette seule idée. Alors que le concept d'un maître universel, qui fait de ce devoir un commandement pour les hommes, est plus éloigné encore de nous. Si bien qu'à commencer par lui, nous courrions le risque de voir tomber notre courage, partie essentielle de la vertu, et de transformer la piété en une soumission bassement servile et flatteuse vis-à-vis d'un pouvoir à commandement despotique. Ce courage requis pour marcher tout seul est fortifié postérieurement par la doctrine de la réconciliation, attendu que cette doctrine nous présente comme abolie ce qui ne peut être changé et ouvre devant nous le sentier d'une vie nouvelle, au lieu qu'en partant de cette doctrine, l'homme se voit privé de tout courage, par l'effort inutile à rendre le passé non avenu, l'expiation. Par la crainte relative à l'appropriation de cette expiation, par la représentation de son impuissance totale en ce qui concerne le bien et par l'appréhension angoissante d'une rechute dans le mal. Toutes choses qui doivent le jeter dans un état déplorable de passivité morale où il n'entreprend rien, ni de grand, ni de bon, mais attend tout de son désir. Pour ce qui touche au sentiment moral, tout dépend du concept suprême auquel on subordonne ses devoirs. Si le culte rendu à Dieu occupe la première place et se subordonne donc la vertu, il a pour objet une idole, c'est-à-dire que Dieu est alors conçu comme un être auquel nous ne saurions avoir l'espoir de nous rendre agréable par une conduite morale, la meilleure qui soit au monde, mais qu'il faut adorer et flatter pour lui plaire. Et la religion, en ce cas, est de l'idolâtrie. La piété n'est donc pas l'équivalent de la vertu et ne peut pas en tenir lieu. Elle en est par contre l'achèvement qui lui permet d'espérer le succès final, la réalisation de toutes nos fins bonnes, ce qui est pour elle un couronnement.